Chapitre 6. Silhouette de Gascon, Monsieur de Loignac. Dire que Dame Fournichon fut absolument aussi discrète que le lui avait recommandé l'étranger, nous ne l'oserions pas. D'ailleurs, elle se croyait sans doute dégagée de toute obligation envers lui par l'avantage qu'il avait donné à Maître Fournichon à l'endroit de l'épée du fier chevalier. Mais comme il lui restait encore plus à deviner qu'on ne lui en avait dit, elle commença, pour établir ses suppositions sur une base solide, par chercher quel était le cavalier inconnu qui payait si généreusement l'hospitalité de ses compatriotes. Aussi ne manqua-t-elle point d'interroger le premier soldat qu'elle vit passer sur le nom du capitaine qui avait passé la revue. Le soldat, qui était probablement d'un caractère plus discret que son interlocutrice, lui demanda d'abord, avant de répondre, à quel propos elle faisait cette question. « Parce qu'il sort d'ici, répondit Madame Fournichon, qu'il a causé avec nous et qu'on est bien aise de savoir à qui l'on parle. » Le soldat se mit à rire. Le capitaine qui commandait la revue ne serait pas entré à l'épée du fier chevalier, Madame Fournichon, dit-il. « Et pourquoi cela ? Demanda l'hôtesse. Il est donc trop grand seigneur pour cela ? Peut-être. « Eh bien, si je vous disais que ce n'est pas pour lui qu'il est entré à l'hôtellerie du fier chevalier. »« Et pourquoi donc ? Et pour ses amis ?»« Oh, le capitaine qui commandait la revue ne logerait pas ses amis à l'épée du fier chevalier, j'en réponds. »« Peste, comme vous y allez, mon brave homme, et quel est donc ce monsieur qui est trop grand seigneur pour loger ses amis au meilleur hôtel de Paris ?» « Vous voulez parler de celui qui commandait la revue, n'est-ce pas ?»« Et sans doute. »« Eh bien, ma bonne femme, celui qui commandait la revue était purement et simplement Monsieur le duc Nogaret de la Valette d'Épernon, pair de France, colonel général de l'infanterie du roi, et un peu plus roi que Sa Majesté elle-même. Eh bien, qu'en dites-vous de celui-là ?»« Oh, que si c'est lui qui est venu, il m'a fait honneur !» L'avez-vous entendu dire Parfandius ? Hé hé ! Fit la dame Fournichon, qui avait vu bien des choses extraordinaires dans sa vie et à qui le mot Parfandius n'était pas tout à fait inconnu. Maintenant, on peut juger si le 26 octobre était attendu avec impatience. Le 25 au soir, un homme entra, portant un sac assez lourd qu'il déposa sur le buffet de Fournichon. « C'est le prix du repas commandé pour demain, dit-il. »« À combien par tête ?» demandèrent ensemble les deux époux. « À 6 livres. »« Les compatriotes du capitaine ne feront-ils donc ici qu'un seul repas ?»« Un seul. »« Le capitaine leur a donc trouvé un logement ?»« Il paraît. » Et le messager sortit, malgré les questions du rosier et de l'épée, et sans vouloir davantage répondre à aucune d'elles. Enfin, le jour tant désiré se leva sur les cuisines du fier chevalier. Midi et demi venait de sonner aux Augustins quand des cavaliers s'arrêtèrent à la porte de l'hôtellerie, descendirent de cheval et entrèrent. Cela était venu par la porte Bussy et se trouvaient naturellement les premiers arrivés, d'abord parce qu'ils avaient des chevaux, ensuite parce que l'hôtellerie de l'épée était à 100 pas à peine de la porte Bussy. Un d'eux-mêmes qui paraissait leur chef, tant par sa bonne mine que par son luxe, était venu avec 2 laquais bien montés. Chacun d'eux exhiba son cachet à l'image de Cléopâtre et fut reçu par les 2 époux avec toutes sortes de prévenances, surtout le jeune homme aux 2 laquais. Cependant, à l'exception de ce dernier, les nouveaux arrivants ne s'installèrent que timidement et avec une certaine inquiétude. On voyait que quelque chose de grave les préoccupait. Surtout lorsque, machinalement, ils portaient leurs mains à leurs poches. Les uns demandèrent à se reposer, les autres à parcourir la ville avant le souper. Le jeune homme aux 2 laquais s'informa s'il n'y avait rien de nouveau à voir dans Paris. Ma foi, dit Dame Fournichon, sensible à la bonne mine du cavalier, si vous ne craignez pas la foule, et si vous ne vous effrayez pas de demeurer sur vos jambes 4 heures de suite, vous pouvez vous distraire en allant voir écarteler monsieur de Salcedo, un Espagnol qui a conspiré. Ah, tiens, dit le jeune homme, c'est vrai, j'ai entendu parler de cette affaire, j'y vais, pardieu. Et il sortit avec ses deux laquais. Vers 2 heures arrivèrent par groupe de 4 ou 5 une douzaine de voyageurs nouveaux. Quelques-uns d'entre eux arrivèrent isolés. Il y en eut même un qui entra en voisin, sans chapeau, une badine à la main. Il jurait contre Paris, où les voleurs sont si audacieux que son chapeau lui avait été pris du côté de la grève en traversant un groupe, et si adroit qu'il n'avait pu voir qui le lui avait pris. Au reste, c'était sa faute. Il n'aurait pas dû entrer dans Paris avec un chapeau orné d'une si magnifique agrafe. Vers 4 heures, il y avait déjà 40 compatriotes du capitaine installés dans l'hôtellerie des Fournichons.
« C'est étrange, dit l'hôte à sa femme, ils sont tous gascons. »
Que trouves-tu d'étrange à cela ? Répondit la dame. Le capitaine n'a-t-il pas dit que c'était des compatriotes qu'il recevait ?
Eh bien.
Et puisqu'il est gascon lui-même, ses compatriotes doivent être gascons.
Tiens, c'est vrai, dit l'hôte.
Est-ce que monsieur d'Épernon n'est pas de Toulouse?
C'est vrai, tu tiens donc toujours pour monsieur d'Épernon.
Est-ce qu'il n'a pas lâché 3 fois le fameux Parfandius?
Il a lâché le fameux Parfandius, demanda Fournichon inquiet. Qu'est-ce que cet animal-là?
Imbécile, c'est son juron favori.
Ah, c'est juste.
Ne vous étonnez donc que d'une chose, c'est de n'avoir que 40 gascons quand vous devriez en avoir 45.
Mais vers 5 heures, les 5 autres gascons arrivèrent et les convives de l'épée se trouvèrent au grand complet. Jamais surprise pareille n'avait épanoui des visages de gascons. Ce furent pendant 1 heure des sandioux, des mordioux, des caps de bioux, enfin des élans de joie si bruyants qu'il sembla aux époux Fournichons que toute la Saintonge, que tout le Poitou, tout l'Aunis et tout le Languedoc avaient fait irruption dans leur grande salle. Quelques-uns se connaissaient. Ainsi, Eustache de Miradoux vint embrasser le cavalier aux deux laquais et lui présenta Lardy, Militor et Scipion.
« Et par quel hasard es-tu à Paris ? » demanda celui-ci.
« Mais toi-même, mon cher Sainte-Maline,
j'ai une charge dans l'armée. Et toi ?
Moi, je viens pour l'affaire de succession.
Ah, tu traînes donc toujours après toi la vieille Lardy ?
Elle a voulu me suivre. »
Ne pouvais-tu partir secrètement au lieu de t'embarrasser de tout ce monde qu'elle traîne après ses jupes?
Impossible, c'est elle qui a ouvert la lettre du procureur.
Hein, tu as reçu la nouvelle de cette succession par une lettre?
Demanda Sainte-Maline.
Oui, répondit Miradoux, et puis se hâtant de changer de sujet.
N'est-ce pas singulier, dit-il, que cette hôtellerie soit pleine et ne soit pleine que de compatriotes?
Oh non, ce n'est pas singulier. L'enseigne est appétissante pour des gens d'honneur,
interrompit notre ancienne connaissance, Père Ducasse de Pincornay, en se mêlant à la conversation.
Ah, c'est vous, compagnon, dit Sainte-Maline. Vous ne m'avez toujours pas expliqué ce que vous alliez me raconter vers la place de Grève lorsque cette grande foule nous a séparés.
Et qu'allais-je vous expliquer? Demanda Pincornay en rougissant un peu.
« Mais comment, entre Angoulême et Angers, je vous ai rencontré sur la route, comme je vous vois aujourd'hui, à pied, une badine à la main et sans chapeau ?»«
Cela vous préoccupe, monsieur ?»«
Ma foi, oui, dit Sainte-Maline. Il y a loin de Poitiers ici, et vous venez de plus loin que Poitiers.
Hein, je venais de Saint-André de Cubsac.
Voyez-vous, et comme cela, sans chapeau. »«
C'est bien simple.
Je ne trouve pas. »
Eh, si fait, vous allez comprendre. Mon père a 2 chevaux magnifiques auxquels il tient de telle façon qu'il est capable de me déshériter après le malheur qui m'est arrivé.
Et quel malheur vous est-il arrivé?
Ah, je promenais l'un d'eux, le plus beau, quand tout à coup un coup d'arquebuse part à 10 pas de moi. Mon cheval s'effarouche, s'emporte et prend la route de la Dordogne.
Où il s'élance?
Parfaitement.
Avec vous?
Ah non, par bonheur, j'avais eu le temps de me glisser à terre. Sans cela, je me noyais avec lui.
Ah, la pauvre bête s'est donc noyée.
Pardieu, vous connaissez la Dordogne, une demi-lieue de large.
Et alors?
Alors je résolus de ne pas rentrer à la maison et de me soustraire le plus loin possible à la colère paternelle.
Mais votre chapeau?
Attendez donc, que diable, mon chapeau, il était tombé.
Comme vous.
Moi, je n'étais pas tombé, je m'étais laissé glisser à terre. Un pin cornet ne tombe pas de cheval. Les pins cornets sont écuyés au maillot.
C'est connu, dit Sainte-Maline, mais votre chapeau?
Ah, voilà, mon chapeau.
Oui.
Et mon chapeau était donc tombé. Je me suis mis à sa recherche, car c'était ma seule ressource, étant sorti sans argent.
Et comment votre chapeau pouvait-il vous être une ressource?
Insista Sainte-Maline, décidée à pousser Pincornet à bout.
Mais sans Dieu, est une grande! Il faut vous dire que la plume de ce chapeau était retenue par une agrafe en diamant que Sa Majesté l'Empereur Charles V donna à mon grand-père lorsqu'en se rendant d'Espagne en Flandre, il s'arrêta dans notre château.
Ah, et vous avez vendu l'agrafe et le chapeau avec?
Alors, mon cher ami, vous devez être le plus riche de nous tous, et vous auriez bien dû, avec l'argent de votre agrafe, acheter un second gant. Vous avez des mains dépareillées, l'une est blanche comme une main de femme, l'autre est noire comme une main de nègre.
Et, attendez donc, au moment où je me retournais pour chercher mon chapeau, je vois un corbeau énorme qui fond dessus.
Sur votre chapeau?
Ou plutôt sur mon diamant. Vous savez que cet animal dérobe tout ce qui brille.
Il fond sur mon diamant et me le dérobe.
Votre diamant?
Oui, monsieur.
Ah, je le suis d'abord des yeux, puis ensuite en courant, je crie « Arrêtez, arrêtez, au voleur !»
La peste, au bout de 5 minutes, il était disparu et jamais plus je n'en ai entendu parler.
De sorte qu'accablé par cette double perte, je n'ai plus osé rentrer dans la maison paternelle et je me suis décidé à venir chercher fortune à Paris.
« Bon, dit un troisième, le vent s'est donc changé en corbeau. Je vous ai entendu, ce me semble, raconter à monsieur de Loignac qu'occupé à lire une lettre de votre maîtresse, le vent vous avait emporté lettre et chapeau, et qu'en véritable Amadis, vous aviez couru après la lettre, laissant aller le chapeau au bon lui semblait. »
« Monsieur, dit Sainte-Maline, j'ai l'honneur de connaître monsieur d'Aubigné, qui, quoique fort brave soldat, manie assez bien la plume. Narrez-lui, quand vous le rencontrerez, l'histoire de votre chapeau, et il fera un charmant conte là-dessus. »
Quelques rires étouffés se firent entendre.
« Eh bien, messieurs, dit le Gascon, irritable, rirait-on de moi, par hasard ?»
Chacun se retourna pour rire plus à l'aise.
Père Ducasse jeta un regard inquisiteur autour de lui et vit près de la cheminée un jeune homme qui cachait sa tête dans ses mains. Il crut que celui-là n'en agissait ainsi que pour mieux se cacher. Il alla à lui.
« Monsieur, dit-il, si vous riez, riez au moins en face que l'on voit votre visage. »
Et il frappa sur l'épaule du jeune homme qui releva un front grave et sévère.
Le jeune homme n'était autre que notre ami Ernoton de Carminges, encore tout étourdi de son aventure de la grève.
« Je vous prie de me laisser tranquille, monsieur, lui dit-il, et surtout, si vous me touchez encore, de me ne toucher que de la main où vous avez mis un gant. Vous voyez bien que je ne m'occupe pas de vous.
»« La bonne heure, grommela Pincornet, si vous ne vous occupez pas de moi, je n'ai rien à dire. »
« Ah, monsieur, fit Eustache de Miradoux à Carminges avec les plus conciliantes attentions, vous n'êtes pas gracieux pour votre compatriote. »«
Et de quoi diable vous mêlez-vous, monsieur ?»
reprit Ernoton de plus en plus contrarié.
« Vous avez raison, monsieur, dit Miradoux en saluant, cela ne me regarde point. »
Et il tourna les talons pour aller rejoindre l'Ardille, assise dans un coin de la grande cheminée. Mais quelqu'un lui barra le passage. C'était Militor, avec ses deux mains dans sa ceinture et son rire narquois sur les lèvres.
« Dis donc, beau papa, fit le vaurien.
Après, qu'en dites-vous?
De quoi?
De la façon dont ce gentilhomme vous a rivé votre clou.
Hein?
Il vous a secoué de la belle façon.
Ah, tu as remarqué cela, toi? Dit Eustache, essayant de tourner Militor.
mais celui-ci fit échouer la manœuvre en se portant à gauche et en se retrouvant de nouveau devant lui.
Ah, non seulement moi, continua Militor, mais encore tout le monde, voyez comme chacun rit autour de nous.
Le fait est qu'on riait, mais pas plus de cela que d'autre chose.
Eustache devint rouge comme un charbon.
Allons, allons, bon papa, ne laissez pas refroidir l'affaire, dit Militor.
Eustache se dressa sur ses ergots et s'approcha de Carminge.
On prétend, monsieur, lui dit-il, que vous avez voulu m'être particulièrement désagréable.
Quand cela? Tout à l'heure.
À vous?
À moi.
Et qui prétend cela?
Monsieur, dit Eustache en montrant Militor.
Alors, monsieur,
répondit Carminge en appuyant ironiquement sur la qualification, alors monsieur est un étourneau.
Oh, fit Militor furieux.
Et je l'engage, continua Carminge, à ne point venir donner du bec sur moi, ou sinon je me rappellerai les conseils de monsieur de Loignac.
Monsieur de Loignac n'a point dit que je fusse un étourneau, monsieur.
Non, il a dit que vous étiez un âne.
Préférez-vous cela? Oh bien, peu m'importe à moi. Si vous êtes un âne, je vous sanglerai. Si vous êtes un étourneau, je vous plumerai.
Monsieur, dit Eustache, c'est mon beau-fils, traitez le mieux, je vous prie, par égard pour moi.
Ah, voilà comme vous me défendez, beau papa, s'écria Militor, exaspéré. S'il en est ainsi, je me défendrai mieux tout seul.
À l'école, les enfants, dit Ernoton, à l'école.
À l'école, s'écria Militor en s'avançant le poing levé sur monsieur de Carminge. J'ai 17 ans, entendez-vous, monsieur?
Et moi j'en ai 25, dit Ernoton, voilà pourquoi je vais vous corriger selon vos mérites.
Et le saisissant par le collet et par la ceinture, il le souleva de terre et le jeta, comme il eût fait d'un paquet, par la fenêtre du rez-de-chaussée dans la rue, et cela tandis que l'hardi poussait des cris à faire crouler les murs.
Maintenant, ajouta tranquillement Ernoton, beau père, belle-mère, beau fils et toutes les familles du monde, j'en fais de la chair à pâté si l'on vient me déranger encore.
Ma foi, dit Miradoux, je trouve qu'il a raison, moi, pourquoi l'agacer, ce gentilhomme?
Ah, lâche, lâche, qu'il laisse battre son fils, s'écria l'hardi en s'avançant vers Eustache et en secouant ses cheveux épars.
Là, 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 fit Eustache, du calme, cela lui fera le caractère.
« Ah, ça, dis donc, on jette des hommes par la fenêtre, ici !» fit un officier en entrant.
« Que diable ! Quand on se livre à ces sortes de plaisanteries, on devrait au moins crier « Gare là-dessous !»«
Monsieur de Loignac !» s'écrièrent une vingtaine de voix.
« Monsieur de Loignac !» répétèrent les 45, et à ce nom connu par toute la Gascogne, chacun se leva et se tut. Derrière monsieur de Loignac entra à son tour Militor, moulu de sa chute et cramoisi de colère.
« Serviteurs, messieurs, dit Loignac, nous menons grand bruit, ce me semble.
Ah, maître Militor a encore fait le hargneux à ce qu'il paraît, et son nez en souffre.
« On me payera mes coups, grommela Militor en montrant le poing à Carminge.
« Servez, maître Fournichon, cria Loignac, et que chacun soit doux avec son voisin si c'est possible. Il s'agit à partir de ce moment de s'aimer comme des frères.
fit sainte Maline.
« La charité est rare, dit Chalabre, en étendant sa serviette sur son pourpoint gris de fer, de manière que, quelle que fût l'abondance des sauces, il ne lui arriva aucun accident. »
Et s'aimer de si près, c'est difficile, ajouta Ernoton. Il est vrai que nous ne sommes pas ensemble pour longtemps.
Voyez, s'écria Pincornet, qui avait encore les railleries de Sainte-Maline sur le cœur. On se moque de moi parce que je n'ai point de chapeau, et l'on ne dit rien à monsieur de Montcrabeau qui va dîner avec une cuirasse du temps de l'empereur Pertinax, dont il descend, selon toute probabilité.
Ce que c'est que la défensive.
Mon crabeau, piqué au jeu, se redressa et avec une voix de fausset,
« Messieurs, dit-il, je l'ôte, avis à ceux qui aiment mieux me voir avec des armes offensives qu'avec des armes défensives !»
Et il délassa majestueusement sa cuirasse en faisant signe à son laquais, gros grison d'une cinquantaine d'années, de s'approcher de lui.
« Allons, la paix !» fit monsieur de Loignac, « et mettons-nous à table !»
« Débarrassez-moi de cette cuirasse, je vous prie, » dit Pertinax à son laquais. Le gros homme la lui prit des mains.
« Et moi, lui dit-il tout bas, ne vais-je point dîner aussi? Fais-moi donc servir quelque chose, Pertinax, je meurs de faim. »« Cette interpellation, si étrangement familière qu'elle fût, n'excita aucun étonnement chez celui auquel elle était adressée. « J'y ferai mon possible, dit-il, mais pour une plus grande certitude, enquérez-vous de votre côté. » Fit le laquais d'un ton maussade, voilà qui n'est point rassurant. « Ne vous reste-t-il absolument rien ? » demanda Pertinax. « Nous avons mangé notre dernier écu à Sens. » « Dame, voyez, à faire de l'argent, de quelque chose. » Il achevait à peine quand on entendit crier dans la rue, puis sur le seuil de l'hôtellerie, « Marchand de vieux fer, qui vend son fer et sa ferraille ?» À ce cri, Madame Fournichon courut vers la porte, tandis que Fournichon transportait majestueusement les premiers plats sur la table. Si l'on juge, d'après l'accueil qui lui fit fait, la cuisine de Fournichon était exquise. Fournichon, ne pouvant faire face à tous les compliments qui lui étaient adressés, voulut admettre sa femme à leur partage. Il la chercha des yeux, mais inutilement, elle avait disparu. Il l'appela. « Que fait-elle donc ? » demanda-t-il à un marmiton, en voyant qu'elle ne venait pas. « Ah, maître, un marché d'or !» répondit celui-ci. « Elle vend toute votre vieille ferraille pour de l'argent neuf. » J'espère qu'il n'est pas question de ma cuirasse de guerre, ni de mon armée de bataille, s'écria Fournichon en s'élançant vers la porte. Non, non, dit Loignac, puisque l'achat des armes est défendu par ordonnance du roi. N'importe, dit Fournichon. Et il courut vers la porte. Madame Fournichon rentrait triomphante. Eh bien, qu'avez-vous, dit-elle en regardant son mari tout effaré. J'ai qu'on me prévient que vous vendez mes armes. Après? « C'est que je ne veux pas qu'on les vende, moi. »« Ah, bah, puisque nous sommes en paix, mieux valent deux casseroles neuves qu'une vieille cuirasse. »« Ah, ce doit cependant être un assez pauvre commerce que celui du vieux fer, depuis cet édit du roi dont parlait tout à l'heure monsieur de Loignac, » dit Chalabre. « Au contraire, monsieur, » dit Dame Fournichon, « et depuis longtemps, ce même marchand-là me tentait avec ses offres. Ma foi, aujourd'hui, je n'ai pu y résister, et retrouvant l'occasion, je l'ai saisi. 10 écus, monsieur, sont 10 écus, et une vieille cuirasse n'est jamais qu'une vieille cuirasse. »« Comment, 10 écus, » dit Chalabre, « si cher que cela, diable !» Et il devint pensif. « 10 écus, » répéta Pertinax en jetant un coup d'œil éloquent sur son laquais. « Entendez-vous, monsieur Samuel ?» Mais monsieur Samuel n'était déjà plus là. « Ah ça, » dit monsieur de Loignac, « ce marchand-là risque la corde, ce me semble. »« Oh, c'est un brave homme bien doux et bien arrangeant, » reprit madame Fournichon. « Mais que fait-il de toute cette ferraille ? Il la revend au poids. »« Au poids, » fit Loignac, « et vous dites... » qu'il vous a donné 10 écus, de quoi ? D'une vieille cuirasse et d'une vieille salade. En suppososant qu'elle pesasse 20 livres à 2, c'est un 1/2 écu la livre, parfandius, comme dit quelqu'un de ma connaissance, ceci cache un mystère. Que ne puis-je retenir ce brave homme de marchand en mon château ? Dit Chalabre, dont les yeux s'allumèrent, je lui en vendrai 3 milliers pesants des haumes de brassards et de cuirasses. « Comment vous vendriez les armures de vos ancêtres ?» dit Sainte-Maline d'un ton railleur. « Ah, monsieur, dit Eustache de Miradoux, vous auriez tort, ce sont des reliques sacrées. »« Bah, dit Chalabre, à l'heure qu'il est, mes ancêtres sont des reliques eux-mêmes et n'ont plus besoin que de messe. » Le repas allait s'échauffant grâce au vin de Bourgogne dont les épices de Fournichon accéléraient la consommation. Les voix montaient à un diapason supérieur, les assiettes sonnaient, les cerveaux s'emplissaient de vapeurs au travers desquelles chaque Gascon voyait tout en rose, excepté Militor qui songeait à sa chute et Carminge qui songeait à son page. « Voilà beaucoup de gens joyeux, » dit Loignac à son voisin qui justement était Ternoton, « et ils ne savent pourquoi. » « Ni moi non plus, » répondit Carminge, « il est vrai que pour mon compte je fais exception et ne suis pas le moins du monde en joie. »« Vous avez tort quant à vous, monsieur, » reprit Loignac, « car vous êtes de ceux pour qui Paris est une mine d'or, un paradis d'honneur, un monde de félicité. » Ernoton secoua la tête. « Eh bien, voyons,
Ne me raillez pas, monsieur de Loignac, dit Ternoton, et vous qui paraissez tenir tous les fils qui font mouvoir la plupart d'entre nous, faites-moi du moins cette grâce de ne point traiter le vicomte Ternoton de Carminges en comédien de bois.
Oh, je vous ferai d'autres grâces que celle-là, monsieur le vicomte, dit Loignac en s'inclinant avec politesse. Je vous ai distingué au premier coup d'œil entre tous, vous dont l'œil est fier et doux, et cet autre jeune homme là-bas dont l'œil est sournois et sombre.
Vous l'appelez monsieur de Sainte-Maline.
Et la cause de cette distinction, monsieur, si cette demande n'est pas toutefois une trop grande curiosité de ma part?
Ah, c'est que je vous connais, voilà tout. Moi, fit Ternoton surpris, moi, vous me connaissez?
Vous et lui, lui et tous ceux qui sont ici.
C'est étrange.
Ah oui, mais c'est nécessaire.
Et pourquoi est-ce nécessaire?
Parce qu'un chef doit connaître ses soldats.
Et que tous ces hommes seront mes soldats demain.
Mais je croyais que monsieur d'Épernon...
Chut, ne prononcez pas ce nom-là ici, ou plutôt ici, ne prononcez aucun nom. Ouvrez les oreilles et fermez la bouche, et puisque je vous ai promis de vous faire toute grâce, prenez d'abord ce conseil comme un acompte.
Merci, monsieur, dit Ternoton.
Loignac essuya sa moustache et, se levant, « Messieurs, dit-il, puisque le hasard réunit ici 45 compatriotes, vidons un verre de ce vin d'Espagne à la prospérité de tous les assistants. »
Cette proposition souleva des applaudissements frénétiques.
Ils sont ivres pour la plupart, dit Loignac à Ernoton. Ce serait un bon moment pour faire raconter à chacun son histoire, mais le temps nous manque.
Puis, haussant la voix, Holà, maître Fournichon, dit-il, faites sortir d'ici tout ce qui est femmes, enfants et laquais.
L'hardi se leva en maugréant. Elle n'avait point achevé son dessert.
Militor ne bougea point.
M'a-t-on entendu là-bas? Dit Loignac avec un coup d'œil qui ne souffrait aucune réplique.
Allons, allons, à la cuisine, monsieur Militor.
Au bout de quelques instants, il ne restait plus dans la salle que les 45 convives et monsieur de Loignac.
Monsieur, dit ce dernier, chacun de vous sait qui l'a fait venir à Paris, ou du moins sans doute.
Bon, bon, ne criez pas son nom, vous le savez, cela suffit.
Vous savez aussi que vous êtes venu pour lui obéir.
Un murmure d'assentiment s'éleva de toutes les parties de la salle.
Seulement, comme chacun savait uniquement la chose qui le concernait et ignorait que son voisin fût venu mû par la même puissance que lui, tous se regardèrent avec étonnement.
C'est bien, dit Loignac. Vous vous regarderez plus tard, messieurs. Soyez tranquilles, vous avez le temps de faire connaissance.
Vous êtes donc venu pour obéir à cet homme. Reconnaissez-vous cela?
Ah oui, oui, crièrent les 45. Nous le reconnaissons.
Eh bien, pour commencer, continua Loignac, vous allez partir de cette hôtellerie pour venir habiter le logement qu'on vous a désigné.
À tous? Demanda Sainte-Maline.
À tous.
Nous sommes tous mandés, nous sommes tous égaux ici, continua Père Ducasse, dont les jambes étaient si incertaines qu'il lui fallut, pour maintenir son centre de gravité, passer son bras autour du cou de Chalabre.
Prenez donc garde, dit celui-ci, vous froissez mon pourpoint.
Oui, tous égaux, reprit Loignac devant la volonté du maître.
Oh, monsieur, dit en rougissant Carminges, pardon, mais on ne m'avait pas dit que monsieur d'Épernon s'appellerait mon maître.
Attendez, ce n'est point cela que j'avais compris.
Mais attendez donc, maudite tête!
Il se fit, de la part du plus grand nombre, un silence curieux, et de la part de quelques-uns, un silence impatient.
Je ne vous ai pas encore dit qui serait votre maître, messieurs.
Oui, dit Sainte-Maline, mais vous avez dit que nous en aurions un.
Tout le monde a un maître, s'écria Loignac, mais si votre air est trop fier pour s'arrêter où vous venez de dire, cherchez plus haut. Non seulement je ne vous le défends pas, mais je vous y autorise.
Le roi, murmura Carminges.
Silence, dit Loignac, vous êtes venu pour obéir, obéissez donc. En attendant, voici un ordre que vous allez me faire le plaisir de lire à haute voix, monsieur Ernoton.
Ernoton déplia lentement le parchemin que lui tendait monsieur de Loignac et lut à haute voix.
ordre à monsieur de Loignac d'aller prendre pour les commander les 45 gentilshommes que j'ai mandés à Paris avec l'assentiment de sa majesté, signé Nogaret de Lavalette, duc d'Épernon. » Ivres ou rassis, tous s'inclinèrent. Il n'y eut d'inégalité que dans l'équilibre lorsqu'il fallut se relever. « Ainsi, vous m'avez entendu, dit monsieur de Loignac, il s'agit de me suivre à l'instant même. Vos équipages et vos gens demeureront ici, chez maître Fournichon, qui en aura soin, ou je les ferai prendre plus tard. Mais pour le présent, hâtez-vous, les bateaux attendent. »«
Les bateaux ? Répétèrent tous les Gascons. Nous allons donc nous embarquer ?»
Et ils échangèrent entre eux des regards affamés de curiosité.
« Mais sans doute, dit Loignac, que vous allez vous embarquer. Pour aller au Louvre, ne faut-il point passer l'eau ?»«
Au Louvre ? Au Louvre ? » murmurèrent les Gascons joyeux. « Cap de Bius, nous allons au Louvre !» Loignac quitta la table, fit passer devant lui les 45, et les comptant comme des moutons, il les conduisit par les rues jusqu'à la tour de Nesle. Là se trouvaient trois grandes barques, qui prirent chacune 15 passagers à son bord, et s'éloignèrent aussitôt du rivage.
« Que diable allons-nous faire au Louvre ? » se demandèrent les plus intrépides, dégrisés par l'air froid de la rivière, et fort mesquinement couverts pour la plupart.
« Si j'avais ma cuirasse au moins, murmura Pertinax de mon crabeau. »